à cette heure une signification profonde, s'élargissait et se prolongeait, comme s'il eût exprimé tout le don de son être. Elle le répétait avec une ferveur reconnaissante, en femme qui comprenait et qui se soumettait. N'était-ce pas la mystique vaincue, la réalité consentie, la vie glorifiée, avec l'amour enfin connu et satisfait ? Maître, maître, cela vient de loin. Il faut que je te dise et me confesse. C'est vrai que j'allais à l'église pour être heureuse. Le malheur était que je ne pouvais pas croire. Je voulais tout comprendre. Leurs dogmes révoltaient ma raison. Leur paradis me semblait une puérilité invraisemblable. Cependant, je croyais que le monde ne s'arrête pas à la sensation, qu'il y a tout un monde inconnu dont il faut tenir compte. Et cela, maître, je le crois encore. C'est l'idée de l'au-delà, que le bonheur même, enfin trouvé à ton cou, n'effacera pas. Mais ce besoin du bonheur, ce besoin d'être heureuse tout de suite, d'avoir une certitude, comme j'en ai souffert. Si j'allais à l'église, c'était qu'il me manquait quelque chose et que je le cherchais. Mon angoisse était faite de cette irrésistible envie de combler mon désir. Tu te souviens de ce que tu appelais mon éternelle soif d'illusion et de mensonge? Une nuit, sur l'air, par un grand ciel étoilé, tu te souviens? J'avais l'horreur de ta science. Je m'irritais contre les ruines dont elle sème le sol. Je détournais les yeux des plaies effroyables qu'elle découvre. Et je voulais, maître, t'emmener dans une solitude, tous les deux ignorés, loin du monde, pour vivre en Dieu. Ah, quel tourment d'avoir soif et de se débattre et de n'être point contenté. Doucement, sans une parole, il la baisa sur les deux yeux. Puis, maître, tu te souviens encore, continua-t-elle de sa voix légère comme un souffle. Ce fut le grand choc moral par la nuit d'orage, lorsque tu me donnas cette terrible leçon de vie en vidant tes dossiers devant moi. Tu me l'avais déjà dit, connais la vie, aime-la, vis-la telle qu'elle doit être vécue. Mais quel effroyable et vaste fleuve, roulant tout à une mer humaine, qu'il grossit sans cesse pour l'avenir inconnu. Et vois-tu, maître, le sourd travail en moi est parti de là. Et c'est de là qu'est née en mon cœur et en ma chair la force amère de la réalité. D'abord, je suis restée comme anéantie tant le coup était rude. Je ne me retrouvais pas, je gardais le silence parce que je n'avais rien de net à dire. Ensuite, peu à peu, l'évolution s'est produite. J'ai eu des révoltes dernières pour ne pas avouer ma défaite. Cependant, chaque jour davantage, la vérité se faisait en moi. Je sentais bien que tu étais mon maître, qu'il n'y avait pas de bonheur en dehors de toi, de ta science et de ta bonté. Tu étais la vie elle-même, tolérante et large, disant tout, acceptant tout, dans l'unique amour de la santé et de l'effort, croyant à l'œuvre du monde, mettant le sens de la destinée dans ce labeur que nous accomplissons tous avec passion, en nous acharnant à vivre, à aimer, à refaire de la vie et de la vie encore, malgré nos abominations et nos misères. Oh, vivre, vivre, c'est la grande besogne, c'est l'œuvre continuée, achevée sans doute un soir. Silencieux, il souriait, il la baisa sur la bouche. Et, maître, si je t'ai toujours aimé du plus loin de ma jeunesse, c'est, je crois bien, la nuit terrible que tu m'as marquée et faite tienne. Tu te rappelles de quelle étreinte violente tu m'avais étouffée? Il m'en restait une meurtrissure, des gouttes de sang à l'épaule. J'étais à demi nu, ton corps était comme entré dans le mien. Nous nous sommes battus, tu as été le plus fort. J'en ai conservé le besoin d'un soutien. D'abord, je me suis cru humiliée, puis... J'ai vu que ce n'était qu'une soumission infiniment douce. Toujours je te sentais en moi. Ton geste à distance me faisait tressaillir, car il me semblait qu'il m'avait effleuré. J'aurais voulu que ton étreinte me reprît, m'écrasa jusqu'à me fondre en toi, à jamais. Et j'étais avertie, je devinais que ton désir était le même, que la violence qui m'avait faite tienne t'avait fait mien, que tu luttais pour ne pas me saisir au passage et me gagner. Déjà en te soignant quand tu as été malade, je me suis contentée un peu. C'est à partir de ce moment que j'ai compris. Je ne suis plus allée à l'église. Je commençais à être heureuse près de toi. Tu devenais la certitude. Rappelle-toi, je t'avais crié sur l'air qu'il manquait quelque chose dans notre tendresse. Elle était vide, j'avais le besoin de l'emplir. Que pouvait-il nous manquer si ce n'était Dieu, la raison d'être du monde? Et c'était la divinité, en effet, l'entière possession, l'acte d'amour et de vie. Elle n'avait plus que des balbutiements. Ils riaient de leur victoire. Et ils se reprirent. La nuit entière fut une béatitude dans la chambre heureuse, embaumée de jeunesse et de passion. Quand le petit jour parut, ils ouvrirent toutes grandes les fenêtres pour que le printemps entrât. Le soleil fécondant d'avril se levait dans un ciel immense, d'une pureté sans tache. Et la terre, soulevée par le frisson des germes, chantait gaiement les noces. Chapitre 8. Alors, ce fut la possession heureuse, l'idylle heureuse. Clotilde était le renouveau qui arrivait à Pascal sur le tard, au déclin de l'âge. Elle lui apportait du soleil et des fleurs, plein sa robe d'amante. Et cette jeunesse, elle la lui donnait après les 30 années de son dur travail, lorsqu'il était là déjà, et pâlissant, d'être descendu dans l'épouvante des plaies humaines. Il renaissait sous ses grands yeux clairs, au souffle pur de son haleine. C'était encore la foi en la vie, en la santé, en la force, à l'éternel recommencement. Ce premier matin, après la nuit des noces, Clotilde sortit la première de la chambre, seulement vers 10 heures. Au milieu de la salle,